Bonjour à tous, bienvenue au balado 40 ans pour elle de la Dauphinelle. La Dauphinelle est une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales qui offre également une panoplie de services dans la communauté. Cette année, nous célébrons nos 40 ans d'existence et pour l'occasion, nous avons créé un balado composé de 5 épisodes qui aborderont différents thèmes reliés à la violence conjugale. Pour notre troisième épisode, nous allons aborder les services en violence conjugale. Nous avons une invitée spéciale, vous la connaissez comme co-porte-parole du Parti Québec solidaire et comme députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques depuis 2014. Nous la rencontrons aujourd'hui comme étant une femme proche de sa communauté. Elle fut notamment coordonnatrice générale de la Fédération des femmes du Québec, coordonnatrice du Centre des femmes de Laval, et elle continue de s'engager dans le milieu communautaire à travers plusieurs comités de coordination. Elle fut présente à nos côtés lors de la marche contre les violences conjugales organisée en 2021. Nous la remercions d'avoir accepté notre invitation et de prendre de son temps pour nous accorder cette discussion. Manon Massé, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Ben, je suis avec vous, alors je vais bien et je suis contente de prendre ce temps-là.
Alors, effectivement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est sûr qu'on vous connaît comme étant une femme politique, présente, féministe, militante. Nous, on va aborder un peu plus votre côté pré-politique, la Manon du peuple, comme certains l'appellent, la personne qui était vraiment proche de sa communauté. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette femme-là, qui était Manon avant la politique?
Oui, ben elle est pas ben différente. C'est juste que les organisations dans lesquelles que j'actualisais ou je défendais le droit des femmes étaient un peu différents. Ben écoute, une histoire simple. Moi, j'ai toujours travaillé dans des groupes communautaires toute ma vie, toute ma carrière, comme on dit aujourd'hui, avant d'être élu, la défense de droit a toujours été ma motivation, bien sûr celui des femmes puisque c'est ma propre condition, que ce soit, par exemple, j'ai connu la Dauphinelle quand je travaillais pavillon d'éducation communautaire au PEC, un peu la même chose, t'as nommé mes emplois, disons, dans les groupes de femmes, mais on se le cachera pas, tous les groupes communautaires, quand tu parles de logement, d'éducation populaire, d'alphabétisation, la présence des femmes, tant au niveau des travailleuses que des participantes, elle est importante. Alors pour moi, j'ai comme un petit peu toujours travaillé pour défendre les droits des femmes, les droits des minorités, et je pense que je dirais l'organisation de la marche mondiale des femmes, la marche du pain et des roses aussi, mais particulièrement la marche mondiale des femmes a eu un impact majeur dans ma compréhension la discrimination systémique vécue par les femmes, notamment en matière de violence.
Mm-hmm. Et puis, vous avez donc travaillé, même justement été bénévole dans plusieurs organismes pour travailler auprès des minorités, auprès des femmes. Est-ce que vous avez eu des cas de violence conjugale à travers votre carrière?
Ah oui, c'est sûr. C'est constant. Je travaillais dans un HLM comme accompagnante, c'était constant. Je travaillais dans un groupe de femmes, c'était constant. J'ai travaillé quand même 10 ans dans un centre de femmes. Hein. Les gens mélangent souvent les maisons d'hébergement, qui sont des lieux qui accueillent spécifiquement les femmes soit victimes de violences conjugales ou en difficulté de façon générale. Mais il y a aussi tout un réseau à travers le Québec qui s'appelle les centres de femmes. Et moi, j'y ai travaillé pendant 10 ans et c'était quotidien. Hein. Les centres de femmes interviennent aussi souvent en amont ou pour permettre aux femmes de se rendre compte qu'elles peuvent agir pour se mettre en sécurité et donc là les liens qui sont faits avec les maisons d'hébergement. Fait que oui, c'était, je vous dirais, mon quotidien. Ça faisait partie de mon quotidien.
Mm-hmm. Et puis, au niveau des interventions que vous faisiez avec ces femmes-là, ça ressemblait à quoi, disons, parce qu'on parle quand même d'il y a quelques années, au niveau de la sensibilisation pour la violence conjugale, ça s'est beaucoup fait pendant la pandémie. Il y a beaucoup eu de féminicides, donc les gens ont commencé à en parler, c'est sorti dans les médias. Mais avant, il y a quelques années, quand on en parlait moins, ça ressemblait à quoi sur le terrain?
Ben, c'est-à-dire, d'après moi, ça ressemble à la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que des femmes en détresse arrivaient dans nos groupes, peu importe quel groupe ils étaient, ne voyaient pas d'entrée de jeu qu'elles étaient victimes de violences conjugales, du contrôle du conjoint. Et le travail d'accompagnement qu'on faisait d'intervention avec ces femmes-là, le travail d'accompagnement, c'était de les accompagner à prendre conscience, premièrement, qu'elles n'étaient pas seules à vivre la situation, que ce qui se passait là était une prise de contrôle et non pas une perte de contrôle, et de mettre sur la table avec les femmes les différentes solutions qui se présentaient à elle, mais toujours laisser à la femme le choix. Tu sais, souvent, j'ai entendu dans ma vie d'intervenante comment c'était « Oh mon Dieu, c'est donc terrible, elle retourne toujours chez... » Je dis « Non, attendez, là, jugez pas, vous connaissez pas les situations des femmes, et quand on le sait qu'elles sont plus pauvres économiquement, bon, actuellement, par exemple, dans une crise de logement, mais, tu sais, assumer seule... Un logement, ça a toujours été très difficile. La charge des enfants, faut se rappeler, il y a même eu des moments clés où on a enfin gagné le partage du patrimoine parce que c'était pas là avant. Je vous dirais qu'il y a toujours eu des groupes, dont les réseaux comme celui dont vous faites partie, la Dauphinelle, qui ont tenté de faire entendre haut et fort les réalités des maisons d'hébergement qui accueillent ces femmes-là, les réalités de ces femmes-là, et des solutions qui se présentaient à elles. Puis, tu sais, je veux dire, l'argent, c'est le nerf de la paix. On dit souvent que c'est le nerf de la guerre, mais moi, je compte ça. C'est le nerf de la paix. Et je pense que les maisons d'hébergement ont été capables de, je dirais, tirer leur épingle du jeu, affirmer le besoin, même si c'est jamais facile. Mais... quelle ressource qui est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, a pas besoin de financement pour soutenir son action. Tu sais, pour moi, c'est une nécessité. Mais c'est sûr que dans la rue, il y avait, tu sais, je veux dire, on a toujours lutté contre les violences faites aux femmes. C'est quelque chose qui a, oui, il y a eu parfois des actions plus spécifiques, soit pour les violences sexuelles, les violences faites aux femmes, mais souvent, parce qu'il y a des liens entre tout ça, souvent on s'est battu ou on a mis ça sur la place publique ensemble, incluant la santé sexuelle des femmes et reproductive, j'entends. Fait que donc, conclusion, c'est sûr que là, c'est plus frappant. Tu sais, je me souviens, dans les années 90, il y avait, ou même 80 peut-être, il y avait un groupe qui... systématiquement mettait au jour annuellement, c'est un groupe d'hommes d'ailleurs, mettait à jour les statistiques de femmes assassinées, femmes et leurs enfants assassinés par la main d'un ex-conjoint. On n'avait pas le mot féminicide, je pense que ça a pris beaucoup de temps avant de l'assumer, mais c'est ça, le collectif, je me souviens plus comment il s'appelait là, mais bref, nous rappelait annuellement que il y avait toujours des femmes qui mourent et des enfants qui mouraient de la main d'un ex-conjoint ou d'un conjoint.
Puis maintenant, j'ai l'impression, mais c'est vraiment mon impression personnelle, que en 2022, on va crier haut et fort, bon, il y a un féminicide, ça va paraître dans les journaux. Il y a eu de la violence, par exemple, physique grave, ça va paraître aussi dans les journaux. Des fois, on parle même des peines aux agresseurs qui ne sont pas suffisamment sévères proportionnellement à ce qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Donc, on en parle beaucoup. Est-ce que, à travers votre carrière, vous avez observé que... on vous écoutait quand vous parliez des droits des femmes, des violences faites aux femmes?
J'ai envie de dire oui, sinon il n'y aurait pas de maison de deuxième étape, par exemple. Oui, parce qu'il n'y aurait pas un tribunal spécialisé qui inclut la violence conjugale, alors que c'était particulièrement les violences sexuelles desquelles on parlait à l'époque. Oui, une écoute, mais c'est long. Je vous dirais, c'est parce que les femmes se sont affirmées, c'est parce que les femmes, les féministes, ont enligné les médias, les décideurs, que, par exemple, tu sais, moi, je me souviens, là, j'étais député, fait que ça fait pas longtemps, là. Il y a 8 ans, on parlait encore de drame conjugal.
C'est sorti dans les journaux récemment un drame familial. avec les deux enfants de fille, malheureusement.
Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, fait, pour moi, il y a eu du cheminement. Il y a encore, je dirais, des ratés, mais globalement, au niveau médiatique, on n'utilise plus les mots de drame familial. Ça existe encore, je dis pas que ça existe pas, mais de façon majoritaire, il y a... Mais là, la grande question que tout le monde se pose, c'est oui, mais pourquoi d'abord? Pourquoi ça continue? Pourquoi ça l'arrête pas? Ben voilà, voilà un des enjeux, le patriarcat, tu sais, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, il faut, tu sais, le patriarcat continue d'exister, continue de polluer nos esprits à nous, les femmes, celles des hommes, tu sais, moi, de plus en plus, quand un féminicide arrive, je j'ai plus de mots, je sais plus quoi dire, je sais plus comment le dire, ça fait 40 ans que je répète les mêmes affaires, mais il y a une chose qui est sûre, c'est... Il faut qu'on soit capable de faire la différence entre une chicane puis de la violence, entre la prise de contrôle, la perte de contrôle. Ça, c'est constamment à travers l'éducation. Et moi, je pense que mes attentes sont très élevées par rapport à le gouvernement du Québec là, a adopté une réforme du cours de, je pense que ça s'appelle maintenant citoyenneté québécoise. Et mes attentes sont très élevées pour qu'à l'intérieur de ce cours-là, on voit enfin apparaître pas juste l'éducation sexuelle, c'est important pour toutes sortes d'identités de genre, les relations, etc., la prévention des maladies transmises sexuellement, je me sens vraiment vieille, désolé tout le monde, mais c'est mon âge. Mais aux saines relations... Donc, le consentement, l'égalité des tâches à l'intérieur d'un couple, la charge mentale, qu'on aborde ces questions-là, ben, c'est sûr, pas en deuxième année, mais moi, je pense qu'à partir de secondaire 1, secondaire 2, ils sont capables de saisir que, dans le fond, dans leur famille, leurs parents, c'est inégal. C'est fait que, ouais, j'ose fonder un peu d'espoir là-dessus.
Mais on partage le même espoir que vous. C'est sûr que pour nous, oui, c'est-à-dire très clairement la violence conjugale touche tout le monde, de toutes les classes sociales, peu importe votre origine. Nous, à la Dauphinelle, on accueille quand même plusieurs personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada ou qui sont issues de l'immigration, bien qu'il y ait des personnes qui soient là depuis plusieurs années et malheureusement, à cause du contrôle de leur conjoint, ne peuvent pas apprendre le français, par exemple. Donc, c'est sûr qu'au niveau de, comment on dit, l'intervention
intersectionnelle,
il y a beaucoup de choses à faire.
Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que pour plusieurs femmes mondialement, puis parfois même ici au Québec, c'est comme si le droit à l'intégrité de son corps, à la sécurité, c'est comme si... C'est pas un acquis, hein, pour toutes sortes de raisons. Fait que, tu sais, quand on sait qu'encore le viol collectif est un outil utilisé comme arme de guerre, tu te dis, bon, ben là, violence conjugale, tu sais, on est... Oui, il y a beaucoup de travail d'éducation à faire, puis heureusement qu'il y a des groupes comme les vôtres pour le faire quotidiennement.
Merci beaucoup. Une de nos dernières questions, puisque le temps file, on va en revenir justement au rôle du gouvernement, parce que vous êtes député, vous siégez à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous voyez la place que la violence conjugale devrait prendre au niveau des discussions à l'Assemblée nationale, au niveau de la politique, même pour les féminicides, mais vraiment au niveau de la violence conjugale? Quelle place ça devrait prendre? Quelle solution apporter au niveau vraiment gouvernemental?
Ben, certainement plusieurs. Je regarde le gouvernement dans la dernière législature a adopté un rapport et un plan d'action concernant les violences. Parce que je vous dis, on peut pas disséquer ça comme ça, là. Je veux pas tout mettre dans tout, mais là où il y a une prise de contrôle, souvent il l'a à plusieurs niveaux, jusqu'à enlever la vie à des personnes. Fait que moi, je pense que le gouvernement a une partie des moyens, puis ça s'appelle l'éducation, ça s'appelle le financement adéquat en prévention, ça s'appelle des services publics. Tu sais, quand il n'y a pas de logement, là, il n'y a pas de logement, ben il n'y a pas plus pour une femme qui aurait besoin de se retirer pour sa sécurité avec les enfants, par exemple, mais qu'il n'y a pas de place. S'il n'y a pas de services publics, si les au niveau de l'éducation, de la santé, du logement, de même l'accès aux droits, si tout ça est compliqué, ben c'est sûr que ça aide pas les femmes qui sont prises dans une situation... Pour moi, il faut agir de façon très sur plusieurs angles, et je pense que le rapport Reconstruire la confiance est une partie de la réponse, parce que il y a là-dedans des propositions fort intéressantes qui malheureusement n'ont pas été choisies par le gouvernement en place. Fait qu'il y a déjà une partie des réponses, mais l'autre bout là. C'est qu'à un moment donné, faut arrêter comme société de minimiser, banaliser les violences faites aux femmes. Et certaines femmes en particulier, hein, les femmes autochtones, par exemple, c'est reconnu qu'elles sont particulièrement victimes, bon, peut-être pas juste de violences conjugales, mais de façon générale de la violence envers les femmes, parce qu'on considère que, dans le fond, elles sont comme ci ou comme ça, et même chose pour les femmes racisées. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a un travail de premièrement, de reconnaître, faut arrêter de ne pas reconnaître que les femmes représentent 50% de la population. Et donc, par conséquent, elles ont totalement le droit d'exiger l'égalité. Ça devrait être pour tout le monde, là, mais vierge, quand en plus, t'as 50% de la population. Il me semble que là, et après ça, ben, je pense que les gouvernements doivent s'assurer, par exemple, de l'analyse différenciée, l'ADS+, l'analyse différenciée selon les sexes, avec une perspective intersectionnelle, justement pour s'assurer que les lois qu'ils mettent en place, que les règlements, que les programmes, les propositions qu'ils mettent de l'avant, s'assurent de protéger les femmes, s'assurent de permettre l'atteinte d'égalité. Fait que les gouvernements ont un rôle à jouer, mais les individus aussi. Faut arrêter de se dire « Ah, c'est tellement un bon gars, ça se peut pas. » Faut s'enlever ces œillères-là. La prise de contrôle, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Et je pense que plus les femmes, y compris celles qui vivent la violence, mais celles qui les entourent, on va continuer à s'affirmer, plus éventuellement on va y arriver.
C'est très bien dit, c'est vrai que souvent on va avoir tendance à dire « Voyons donc, ça se peut pas, il aurait pas pu faire ça. » Carrément dire à la victime qu'on ne la croit pas, alors qu'il faudrait lui dire dès le début, on vous croit, on va vous aider, il y a des services pour vous. On en vient en fait au mot de fermeture de cet épisode. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui nous écoute, aux personnes qui nous écoutent, qui sont possiblement dans une situation de violence conjugale, qu'elles le réalisent ou pas? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces personnes-là?
Ben, moi, je dirais, écoute ton système d'alarme. Ton système d'alarme intérieur, là, il résonne. Tu sais, c'est comme, il t'envoie des signaux, il t'en envoie depuis longtemps. Puis j'ai envie de dire, je pense, que si les femmes écoutent leur système d'alarme et doutent, ben, tout de suite, elles devraient prendre le téléphone, puis téléphoner un centre de femmes, une maison d'hébergement, SOS violence conjugale, bref, d'autres femmes qui, elles aussi, ont un système d'alarme qui un jour ou l'autre a sonné. Puis moi, je pense qu'en collectivisant, c'est comme ça qu'on se protège le plus. Puis j'ai envie de dire aux gars qui nous écoutent, parce que j'espère qu'il y en a qui vont nous écouter, tu sais, la vie, là, c'est pas à personne d'autre que à... Il y a personne qui a le droit d'avoir le contrôle sur la vie de personne d'autre. C'est pas vrai pour les parents, c'est pas vrai pour les hommes sur les femmes, c'est pas vrai pour les femmes sur les hommes. Alors moi, ce que je dis aux gars qui nous écoutent, si à un moment donné, tu te rends compte que ce que tu veux juste, c'est faire mal à ta blonde, ben t'as un maudit problème. T'aurais dû allumer avant. Fait que peut-être que toi aussi, écoute donc ton système d'alarme qui te dit « Je veux prendre le pouvoir sur ma blonde, c'est une ci, c'est une ça, ben... » Regarde, va donc voir, il existe des ressources pour les gars, va donc voir ces ressources-là, puis peut-être que tu vas découvrir que dans le fond, t'as des choses à guérir toi aussi, puis T'as pas le droit de prendre la vie de quelqu'un, pas plus en contrôle que finalement par la mort.
Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, merci énormément de votre participation à notre balado et à votre conclusion qui, j'espère, fera réfléchir toutes les personnes qui nous écoutent.
C'est vraiment un plaisir, on aurait pu en parler pendant des heures.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir écouté le balado 40 ans pour elle de la Dauphinelle. Nous espérons que cela vous a plu, que cela a suscité des questionnements chez vous, que vous allez le partager avec votre entourage. Si jamais vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes dans une situation de violence conjugale, n'hésitez pas à contacter notre ligne d'écoute, Contactel, au 438-522-9264, par téléphone ou par texto, ou encore SOS violence conjugale. En cas d'urgence, n'oubliez pas de toujours faire le 911 immédiatement.